Nous allons ouvrir, une fois n'est pas coutume, le livre d'Ézéchiel, un livre assez difficile quelquefois, hein, surtout dans ses visions. Ézéchiel a des visions qui sont difficiles à interpréter, mais il y en a certaines qui nous parlent encore aujourd'hui. Et le chapitre 9 d'Ézéchiel, nous lirons, juste le chapitre, le verset 2 et 3, voilà. Et 4 même, et après le verset 11. Voici ce qui est écrit, donc Ézéchiel 2. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y a donc 6 hommes qui arrivent pour détruire la ville de Jérusalem. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Il vient se placer devant l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et le verset juste d'après, voilà, le 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. » On va maintenant lire le verset 11. « Et voici l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Dans cette vision, on voit bien que 6 hommes représentent l'armée qui va détruire Jérusalem. Et qu'au milieu de cette armée, il y a un homme un peu particulier et il est vêtu de lin, avec un écritoire à la main. Et Dieu va lui dire, tu vas aller marquer le front de tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui tourmentent leur âme à cause des injustices et des abominations et du péché du peuple. Et lorsque l'armée de ces 6 hommes, avec chacun son moyen de destruction, passera dans ce pays, eh bien, ceux qui auront été marqués seront préservés et seront sauvés. Quel rôle important cet homme avait ! C'était un rôle de salut. Il était d'une importance vitale que cet homme obéisse à Dieu. Et comme la nuit de Pâques, vous savez, la nuit de Pâques, la première Pâques en Égypte, le peuple hébreu avait sacrifié un agneau dans la nuit, et sur les montants de portes de chaque maison, il y avait le sang de l'agneau. Et quand le drame de la dernière plaie d'Égypte qui frappait tous les premiers-nés dans les maisons, qui tuait tous les premiers-nés, est passé, eh bien, ils sont passés par-dessus ces maisons sans toucher à la vie des premiers-nés de ces maisons. Il y avait donc... Dans cette image de cet homme, une image de la grâce, une image du salut, mais il devait faire quelque chose. Et après, on voit cet homme revenir devant Dieu et dire simplement, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Je crois sincèrement que nous devons considérer avec attention tout ce qu'a fait cet homme, tout ce qu'a dit cet homme, et qu'il est important pour nous de fouiller un petit peu la parole de Dieu. Cet homme a été un moyen de salut pour beaucoup, simplement parce qu'il a obéi à Dieu. Il n'a fait ni excès de zèle, ni excès de paresse, seulement ce que Dieu lui a demandé. Et ce n'était pas spectaculaire, mais très efficace, très efficace. Ce n'était pas difficile non plus, il avait tout, il était équipé, il avait tout ce qu'il fallait. Il l'a fait avec sérieux. Sans attendre, sans remettre à demain ce que Dieu lui a demandé, ça aurait été trop tard. Si vous lisez le chapitre suivant, vous verrez que l'homme vêtu de lin a continué à être employé par Dieu et il a continué à obéir. Il y avait une excellente communication entre cet homme et Dieu. Et nous avons beaucoup à apprendre de cet homme. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je sais seulement qu'il est vêtu de lin et que Dieu va l'utiliser pour sauver un grand nombre de personnes. Le vêtement de lin, c'est la seule indication que nous avons sur lui. Vous savez, peut-être, mais à cette époque, il y avait seulement deux sources, deux moyens de se vêtir. Soit on allait vers les animaux, soit on utilisait du végétal. Soit on utilisait la peau des bêtes, la laine et autres. Eh bien, soit on utilisait le lin, qui est une plante, le coton, etc., etc. Lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, vous savez comme moi qu'ils ont essayé de se fabriquer des vêtements avec des feuilles. Ce n'était pas la bonne chose à faire. Hein. Mais Dieu s'en est aperçu et la Bible nous dit qu'avant de les chasser du jardin d'Éden, il leur a fait des habits de peau de bête. Et il les en revêtit. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse 3, chapitre 20. Ces habits de peau sont directement fabriqués par Dieu et liés au péché d'Adam et d'Ève. Par contre, dans la loi de Moïse, le souverain sacrificateur devait revêtir des habits de lin. Alors, vous avez déjà vu du lin, des habits de lin? Non? Bon, écoutez, je vais vous raconter une toute petite histoire. Ce matin, juste avant de partir, j'ai regardé la chemise qui était préparée. J'ai ouvert la chemise, c'était marqué « pur lin ». Ouais. Voilà. Hein? J'ai aucune prétention, hein? Je ne suis pas l'homme à l'habit de lin. Mais après, j'ai regardé le pantalon, c'était pur coton. Et puis... Même la ceinture, il n'y a pas de cuir. Ouais. C'était un petit mot d'humour comme ça. Pour servir Dieu, l'habit de lin représentait la sainteté et le service. Plus de peau, plus de laine, plus de cuir, plus rien de ce qui pourrait être lié au sang. Non, il était... avec un habit de fin lin éclatant. Et d'ailleurs, c'est un symbole de sainteté. Il ne serait pas venu à l'idée du sacrificateur de se présenter devant Dieu autrement. Il représentait sa fonction et cet habit était lié à son service. Et pour servir Dieu, il faut revêtir un vêtement nouveau, nous dit la parole de Dieu. Cela nous fait bien sûr penser à la nouvelle naissance, à la purification de nos péchés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieux vêtement de la peau, c'est du passé. Nous sommes appelés à nous dépouiller de notre vieille nature pour revêtir l'homme nouveau. Alors, c'est un passage d'Éphésiens que je vais lire. Éphésiens 4. Verset 21, à partir du verset 21, « C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Pour être apte au service, il nous faut ce vêtement de lin. Mais ce n'est pas la chemise dont il est question. Mais c'est vraiment une nouveauté de vie, une sainteté de vie. Rechercher la présence de Dieu de façon à être à chaque fois renouvelé par le Saint-Esprit, lavé par l'Esprit de Dieu, lavé par la parole de Dieu, nous présenter devant Dieu pur. Vous savez, quand on voyait le souverain sacrificateur, on ne le savait pas, mais même ses sous-vêtements étaient faits de lin. Et ce n'est pas ce que l'on voit de l'extérieur qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui est important, c'est est-ce que nous sommes aptes à travailler pour le Seigneur? Est-ce que nous avons fait cette expérience de nous dépouiller de la vieille nature? On ne peut pas travailler avec ce qu'on était avant de se convertir. On doit travailler pour Dieu avec notre nouvelle créature. Cet homme avait une deuxième qualité. La Bible nous dit, cet homme est également à l'écoute de Dieu. Et ce n'est pas la moindre des qualités que d'être à l'écoute de Dieu. Je pense que c'est une des plus grandes qualités que l'on peut avoir, c'est de savoir écouter, entendre la voix de Dieu. Et c'est très très important pour nous de savoir ce qu'il nous faut faire afin de pouvoir se présenter après plus tard devant Dieu et dire « je l'ai fait ». En tant que parent et maintenant grand-parent, je sais qu'un enfant ou un petit enfant, ça marche pareil, ne peut pas obéir si lorsque je lui ai parlé, lorsque je lui ai donné mes indications, il n'a pas écouté. Il ne fera jamais ce que j'ai dit s'il était occupé à autre chose, s'il était occupé, son esprit était pris par quelque chose d'autre. J'aurais beau lui parler, lui expliquer ce qu'il faut, ce que j'attends de lui. S'il n'écoute pas, il n'obéit pas. Il fait autre chose. Pour écouter Dieu, c'est la même chose. Il faut absolument arrêter de faire, de se distraire, de penser à autre chose. Il faut être disponible. Disponible. Écouter Dieu, c'est un acte volontaire. Je veux entendre ce que Dieu dit. Ce n'est pas un accident, s'il y a un truc, oh tiens, j'ai entendu, là, je passais dans la rue, d'un coup, Dieu parlait dans la rue et je l'ai entendu. Ça ne passe pas comme ça. Hein. C'est un acte volontaire, ce n'est pas dû au hasard. C'est parce que je fais silence dans mon cœur, c'est parce que je veux savoir exactement ce que Dieu veut, parce que je recherche sa présence, parce que j'ai la volonté de l'entendre vraiment. Alors, je suis dans la capacité d'entendre ce que Dieu veut me dire. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre Dieu nous dire quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on fait? Ben voilà, moi je vais à l'église, super. J'écoute la prédication, voilà, et je rentre chez moi. Génial, je suis chrétien. Mais qu'est-ce qui a été dit dans la prédication? Est-ce que Dieu s'est adressé à ton cœur? Est-ce que tu as un message de la part de Dieu pour toi? Est-ce que tu ne dois pas faire quelque chose? Vous savez, des fois, dans un moment de prière, on a une pensée qui nous vient de Dieu. On sait qu'on doit aller voir un tel, on sait qu'on doit faire telle chose, on sait qu'on doit... Et ça, eh bien, il faut d'abord l'entendre. Le prophète Habacuc, lui, il se plaignait beaucoup. Oh là là, bon, je ne sais pas si vous avez écouté toute l'étude sur Habacuc, je répéterai un petit peu, mais c'est vrai que, bon, il ne comprenait pas pourquoi le méchant réussissait autant que l'autre, etc. Donc, il a commencé par où se plaindre à Dieu, etc. Mais au chapitre 2 d'Habacuc, il est dit, « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Et c'est marqué, « L'Éternel m'adressa la parole et dit. » Wow! Vous vous rendez compte? Dieu lui a adressé la parole. Dieu s'est adressé particulièrement à Habacuc. Eh bien, je peux vous dire que Dieu s'est adressé à lui, et qu'il l'a entendu parce qu'à un moment donné, il s'est arrêté de se plaindre et qu'il a attendu que Dieu lui réponde. Et quelquefois, nous traversons des moments très difficiles. Nous avons beaucoup de questions que nous posons à Dieu et nous n'attendons même pas la réponse. Et Dieu nous dit aujourd'hui, je voudrais t'adresser une parole. Et le verset au chapitre 3, Habacuc dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai compris. Éternel, j'ai entendu. C'est quand même fou que Dieu parle. Dieu parle. Mais si on disait ça dehors, on va dire, mais Dieu te parle, toi? Tu te prends pour Jeanne d'Arc ou quoi? On va dire, mais c'est vrai. Dieu parle au cœur, il parle à travers la parole, il parle à travers la prédication, il parle à travers les dons spirituels. Il ne s'arrête pas de nous parler. Il ne s'arrête pas de nous conseiller. Il ne s'arrête pas de nous consoler. Il ne s'arrête pas d'agir dans nos vies. Dieu parle aujourd'hui. Et dans Jérémie 7, il dit, Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Et le drame aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne parle plus, mais c'est qu'on n'écoute plus Dieu. C'est ça le drame. Je considère aujourd'hui que Dieu s'adresse encore plus qu'avant à son peuple. Je considère aujourd'hui qu'il utilise des moyens extraordinaires pour s'adresser à ses enfants, pour s'adresser à ceux qui sont perdus afin de leur faire connaître la vérité. Mais voilà, je vous ai appelé et vous n'avez pas répondu. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Dans Proverbe 1, 24, la traduction d'Arbi, c'est « parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter ». L'écoute, c'est le premier pas de l'obéissance. L'écoute, c'est le premier pas de l'obéissance. L'homme aux vêtements de lin a été attentif aux instructions de Dieu afin d'agir selon sa parole. Voilà, c'est ce que nous devons faire, nous devons l'imiter. Surtout que lorsqu'on réfléchit bien, on a le même job, on fait la même chose. On apporte le salut à ceux qui sont condamnés. On fait la même chose que cet homme vêtu de lin. L'écoute est le premier pas de l'obéissance. Troisième chose qu'on peut dire sur cet homme, un, il était vêtu de lin, deux, il écoutait. Trois, il était équipé. Il avait avec lui un écritoire, un pinceau, de l'encre. C'est spirituel. Hein. Il n'y a pas eu dans Jérusalem ce jour-là des gens qui se sont trouvés avec une marque sur le front, marquée avec de l'encre. Mais spirituellement, il était équipé. Il était prêt. On a une vision hein, spirituelle qu'il nous faut bien comprendre. Cet homme représente un serviteur modèle. C'est le serviteur modèle. Il est équipé. Il est saint. Il écoute. C'est le serviteur modèle. 2 Timothée 3,16 nous dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin et propre à toute bonne œuvre. » Accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce serviteur modèle, c'était un homme accompli. Et la parole de Dieu nous dit que le chrétien, la chrétienne, devrait être un homme, une femme accomplie. 2 Timothée 3,16. Et il est écrit aussi dans Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Être un homme ou une femme éprouvée. Quelqu'un qui a su passer par-dessus les épreuves, qui a su en qui il croyait, qui a su persévérer, un homme éprouvé, un homme accompli, propre à toute bonne œuvre et prêt à dispenser droitement la parole de la vérité. Et Paul, dans Éphésiens 4, continue à dépeindre cet homme, cette femme, que nous devrions être. Il nous parle des ministères. Il y a différents ministères. Ces ministères qui nous sont donnés à l'Église afin que les chrétiens soient parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Être un homme ou une femme éprouvé, accompli, fait à la stature de Christ. Alors là, je parle pour moi, je crois qu'il y a du boulot. Il y a du travail, voilà, et on est là pour ça. Seigneur, j'ai besoin de continuer à avancer dans le chemin que tu m'as tracé J'ai besoin de tous les ministères que tu mets à disposition de l'Église afin, Seigneur, de pouvoir me présenter comme un homme ou une femme éprouvé, accompli, fait à la stature de Christ. Il n'y a pas dit que dans l'Église, eh bien, il y a des gens qui devraient grandir comme Christ et d'autres qui devraient rester tout petits. Mais que les ministères ont été donnés non pas pour qu'on puisse dire c'est le pasteur, moi je suis apôtre, non. Il a été simplement donné pour que chaque homme et chaque femme puisse grandir dans la foi afin de se présenter un jour devant Dieu comme quelqu'un qui a fait des progrès et qui est un homme éprouvé, un homme accompli. Un homme fait, une femme éprouvée, une femme accomplie, une femme faite à la stature de Christ. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Amen. Cet homme, enfin quatrièmement, cet homme aux vêtements de lin va se présenter devant Dieu. Oh là là. Et il dit, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. On va se présenter tous devant Dieu. Hein. Vous avez imaginé un petit peu vous présenter devant Dieu ? Jésus a donné une parabole une fois, à un moment donné, là, c'est dans Matthieu 21-28. Il parle de cet homme qui va envoyer ses deux fils travailler dans la vigne. Ouais. Ouais. Alors il dit au premier, hein, « Va travailler dans ma vigne !» Le premier répond, « Je ne veux pas. » Non, 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 je n'ai pas le temps, pas aujourd'hui, je ne peux pas. Et la Bible nous dit qu'il se repent de ce qu'il a dit à son père et qu'il y va et qu'il travaille. Les deux vont entendre hein, l'ordre du père. Et le deuxième va dire, « Oh Seigneur, j'y vais dit !» Oh là là, au lieu de l'appeler papa, « Attends, cinq minutes, je vais y aller. » Il dit, « Seigneur !» C'est déjà étonnant qu'il appelle son père Seigneur. Mais bon, c'est comme ça, peut-être qu'à l'époque, ça se faisait. Et, bien sûr, il n'y va pas. Il n'y va pas. Et l'homme aux vêtements de lin, lui, il dit « j'y vais » et il y va. Quand même un niveau au-dessus encore. Hein? Maintenant, imaginons le soir à table, le père arrive, les deux fils sont là, il s'assoit et dit « alors ?» Vous imaginez un peu ? Il y en a qui disent « excuse-moi, c'est vrai, j'avais dit que j'irais pas, je demande pardon, j'y suis allé, je me repens, j'ai travaillé toute la journée, ça marche très bien ta vigne, on l'a taillé ici, on a fait ça. » Et il se retourne vers l'autre, et l'autre il dit « là c'est les excuses, vous savez, on a tous des excuses. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on a comme excuse ? Oh là là, on a tous des excuses. » Bon. Je préfère être dans la peau du premier. Et tout compte fait, je préfère être cet homme aux vêtements de lin. Cet homme en vêtements de lin. Eh bien, nous passerons tous devant Dieu. On va se présenter devant lui. Souvent, d'ailleurs, les paraboles de Jésus nous parlent de ce que Dieu dit à ce qui se présente devant lui. Et souvent, les autres ont la bouche fermée. Mais là, voici un homme qui se présente devant lui, le serviteur utile, le serviteur fidèle, celui qui a écouté, celui qui est resté pur avec ce vêtement de lin, celui qui était équipé pour servir, parce qu'il s'est équipé, qu'il a pris la peine de se présenter devant Dieu avec cet écritoire, ce pinceau, celui qui a obéi, qui a entendu, qui a écouté et qui a mis en pratique celui-là. Il n'a pas de problème, il sait ce qu'il va dire, il n'a pas à réfléchir. Il se présente devant Dieu et dit, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné de faire. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire ? Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas trop entendu tout ce que j'ai des problèmes, j'avais pas beaucoup de temps, Seigneur. Puis à un moment donné, j'ai oublié complètement, j'ai oublié, c'est ça. Seigneur, j'ai oublié. En fait, j'allais le faire juste maintenant, là. J'allais le faire. D'accord. Et puis, ce que tu m'as demandé là, c'était au-dessus de mes forces. J'ai pas pu le faire, Seigneur. J'ai pas pu le faire. Est-ce que vous croyez que ce sont des bons arguments devant Dieu ? Mais il me dit, c'est Dieu qui qualifie. Je n'ai pas pu le faire, mais si, Dieu veut te qualifier. Je n'ai pas eu le temps, mais le temps, c'est la seule chose qui t'appartient aujourd'hui. C'est la seule chose qui t'appartient, c'est ton temps. Qu'est-ce que tu en fais de ton temps ? Je crois que nous avons bien compris que je ne parle pas de notre salut ici. Hein. On est bien, hein. Pas de problème. Je ne parle pas de nos saluts. Hein. Ce n'est pas nos beaux œuvres qui nous sauvent. On ne va pas être condamné à périr dans l'enfer. Non, non, si on a été sincère avec Dieu, si on s'est converti sincèrement, si on a fait demi-tour dans notre vie et qu'on a suivi le Seigneur, on sera sauvé. Amen. Et ça, c'est formidable. Mais je parle de ce que nous dirons à Dieu le jour où on va se présenter devant lui comme cet homme aux vêtements de lin. La première fois que j'ai prêché, c'est la deuxième fois que je prêche sur l'homme aux vêtements de lin. J'ai dit, pour moi, c'est le type de Christ. Ouais, c'est le type de Christ. Et en fait, avec sa prédication d'aujourd'hui, c'est pas loin. Hein. C'est le type du serviteur qui arrive à la stature de Christ. Amen. C'est pareil à peu près. Ça ressemble, hein. Ça ressemble. Et quand on se tourne vers Jésus, quand on regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il a servi, avec quelle intégrité, avec quelle sainteté il a agi, avec quelle puissance il a obéi à son Père, avec quelle insistance il a été à l'écoute de son Père, il a passé des nuits à prier, il était sans arrêt à rechercher la volonté de son Père, jusque dans le jardin de Gethsémané, où il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Eh bien, il a fait toute la volonté de son Père. Il dira dans Jean 17, 4, « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » À peu près la même chose que les paroles de l'homme vêtu de lin. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je me présente devant toi, voilà. Ça y est, Seigneur, j'ai fait. » Et encore, il y avait le plus important qui allait venir. Il y avait cette tentation de Gethsémané, de dire « Seigneur, retire un petit peu, donne-moi un délai. » Jésus était un homme comme nous, dans ce qu'il avait peur de souffrir, dans ses angoisses. La Bible dit qu'il transpirait des grumeaux de sang, de porter le péché du monde. Et quel cri lorsqu'il se retrouve sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, abandonné des hommes, abandonné de Dieu, seul avec notre péché, avec le péché de l'humanité ?» J'ai fait l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et il criera, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Et dans le ciel, lorsque Jésus paraît devant Dieu, eh bien, il présente le sang, son propre sang, comme le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an dans le lieu très saint avec le sang de l'agneau, lui prend son sang à lui et il le présente à Dieu. Et il dit, ça y est, tout est fait. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Il y a un véritable enjeu à se préparer, à écouter et à obéir, Seigneur, que je puisse être de ceux qui font ta volonté, de ceux qui t'écoutent, de ceux qui se tiennent à part du péché. Et ce n'est pas facile, ni dans le temps passé, ni dans le temps présent, que le jour où nous irons devant Dieu, que le jour où j'irai devant toi, Seigneur, je puisse simplement dire, comme cet homme vêtu de lin, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Oh, vous savez, il y a des gens, je me souviens très bien de ce témoignage d'un frère qui est allé visiter un ancien qui était en train de mourir à l'hôpital. Et il s'attendait à voir un ancien, vous savez, ces anciens qui ont la foi, qui restent fermes, comme certains qu'on a vus partir avec les yeux déjà fixés sur le ciel. Il a vu quelqu'un qui pleurait parce qu'il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Il n'avait pas fait. Et ce frère lui a expliqué tout ce qu'il savait déjà. Il lui a dit, mais la grâce de Dieu, c'est pour toi. Mais il savait qu'il n'avait pas fait et il avait peur de se présenter devant Dieu. Mais pour lui, il avait l'impression que c'était trop tard. Pour nous, ce n'est pas trop tard. Le temps est venu d'écouter, d'obéir, de se qualifier et de servir le Seigneur. L'enjeu, c'est le salut de ceux qui nous entourent. L'enjeu, c'est l'enfer ou le ciel. C'est quand même important. Peut-être pas pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux vers qui le Seigneur nous envoie. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous méditerez cette parole. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on peut le dire dans notre vie? Mais le Seigneur nous aime tellement. Nous aime tellement qu'il veut nous dire, je vais t'aider à faire ce que je t'ordonne. Je suis là, près de toi, pour te parler, pour te qualifier, pour te former, pour t'envoyer. Peut-être ce ne sera pas spectaculaire, comme cet homme vêtu de lin. Mais il a fait exactement ce que Dieu lui demandait. Exactement. Sans excès de zèle, sans excès de paresse. Que Dieu soit béni.